Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, plusieurs coups durs pour la majorité présidentielle et l'exécutif. Tout d'abord, le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, invoquant notamment des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Mathieu Orphelin critique également certains choix du gouvernement.
Et puis le rôle de Matignon est en question dans l'affaire Benalla. Matignon a confirmé hier soir avoir transmis des informations au parquet de Paris au sujet de l'enregistrement révélé par Mediapart.
Des extraits d'une conversation privée qui avait conduit à l'ouverture d'une enquête et à une tentative de perquisition controversée au siège du site d'information. Le groupe français Alstom va tenter de rebondir après le veto hier de la Commission européenne sur son rapprochement côté activité ferroviaire avec l'allemand Siemens. Bruno Le Maire critique une décision qui va favoriser la Chine et ses appétits en matière de rail. Nous ferons le point justement sur le géant chinois dans ce journal.
Et puis on en parlera également dans une dizaine de minutes, Catherine, dans la question du jour. Alstom Siemens, pourquoi l'Europe empêche-t-elle la naissance d'un champion ? On posera la question à l'économiste David Spector.
Les quatre dernières années que nous venons de vivre ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850 et le début des relevés systématiques de température. 1 à 1,2 degrés supplémentaires par rapport à la température moyenne de l'époque pré-industrielle. L'Organisation Météorologique Mondiale, une agence de l'ONU, y voit la confirmation du réchauffement climatique, du dérèglement global qui coûte cher en vies humaines mais aussi sur le plan financier. 91 milliards de dollars l'an dernier, n'en déplaise au climato-sceptique Donald Trump. Et lui estime que la France n'avance pas assez pour la planète. Le député Mathieu Orphelin quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Ce proche de Nicolas Hulot n'accepte pas non plus la loi dite anti-casseur. Et le départ de ce député très médiatique a provoqué hier la stupeur dans les rangs de l'AREM, Stéphane Robert.
Chez les collègues de Mathieu Orphelin au groupe La République En Marche, c'est la douche froide. Les réactions vont à peu près toutes dans le même sens. C'est triste, c'est dommage, c'est un type bien, qui a des convictions. La veille, mardi soir, il avait refusé de voter la loi anti-casseurs et s'était abstenu. Mais il n'était pas tout seul, 49 autres députés de la majorité avaient adopté la même attitude et rien ne laissait présager sa défection. C'est la raison pour laquelle la lettre qu'il a envoyée hier en fin de journée pour expliquer les raisons de sa désaffiliation en a surpris plus d'un. Comme pour Nicolas Hulot, dont il est très proche, c'est essentiellement la politique en faveur de l'environnement qui lui pose problème. Nous ne sommes malheureusement au bon rythme, écrit-il, sur aucun des grands chantiers de la transition énergétique. Mais d'autres éléments de la politique d'Emmanuel Macron le dérangent également. Certains choix du gouvernement, explique-t-il, me semblent contradictoires avec l'idée de plus de justice fiscale. Et enfin, conclut-il, le respect des libertés individuelles et des droits humains est un principe non négociable. On comprend à ce stade que la loi anti-casseurs et l'interdiction administrative de manifester qu'elle introduit a sans doute été l'élément qui a déclenché sa décision. Jusqu'ici, il expliquait, comme Nicolas Hulot avant son départ, que tant qu'il se sentait utile, tant qu'il avait l'impression de faire avancer la cause environnementale, il restait un marcheur et poursuivait son action au sein du groupe majoritaire. Aujourd'hui, il dresse un constat d'échec. 9 mois après avoir échoué à faire inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans.
Stéphane Robert. Et voilà un nouveau coup dur pour l'exécutif avec l'affaire Benalla à la suite de la diffusion par Mediapart d'extraits d'une discussion privée entre l'ex-chargé de mission de l'Elysée et Vincent Crase, l'ancien gendarme accusé d'avoir lui aussi frappé des manifestants le 1er mai dernier. Le parquet de Paris a ouvert, on le sait, une enquête préliminaire pour atteinte à la vie privée et possession d'appareils d'enregistrement illicite. Mais aurait-il été alerté par Matignon sur une possible implication de la chef de la sécurité du Premier ministre et de son compagnon, un militaire proche en affaires d'Alexandre Benalla pour un contrat de sécurité avec un oligarque russe. La chef du groupe de sécurité rapproché d'Edouard Philippe a-t-elle accueilli à son domicile une rencontre clandestine entre Alexandre Benalla et son acolyte Vincent Crase? Tout un imbroglio politico-judiciaire que nous explique Stéphane Père.
Le 1er février dernier, le directeur de cabinet d'Edouard Philippe prend lui-même la plume pour informer le procureur de la République de cette affaire dans l'affaire. Selon lui, Marie-Élodie Poitou, la chef du groupe de sécurité du Premier ministre, reconnaît avoir reçu M. Benalla à son domicile pour lui apporter personnellement son soutien, courant juillet, sans préciser la date. La rencontre a eu lieu en présence de son compagnon, mais la commissaire divisionnaire dément que Vincent Crase était présent à son domicile. Son compagnon, ajoute-t-elle, n'a pas organisé cette rencontre chez elle en son absence. Enfin, affirme la lettre, ni Marie-Élodie Poitou ni son compagnon n'étaient missionnés pour réaliser un enregistrement caché pour le compte d'un service de renseignement. En transmettant ces informations au parquet de Paris, au nom de la transparence et sans porter plainte, le directeur de cabinet d'Edouard Philippe espérait sûrement déminer le terrain d'un futur scandale et protéger le Premier ministre. C'était sans compter avec l'ouverture à la hâte d'une enquête par le parquet de Paris et la tentative de perquisition lundi dernier chez Mediapart. Après l'Élysée, les projecteurs de l'affaire Benalla sont braqués sur Matignon.
On en sait un peu plus sur le profil de la principale suspecte dans l'incendie d'un immeuble qui a fait 10 morts à Paris dans la nuit de lundi à mardi. Cette habitante des lieux, une femme d'une quarantaine d'années, a été interpellée ivre après le début de l'incendie, le plus meurtrier dans la capitale depuis 14 ans. Elle venait de sortir d'un hôpital psychiatrique sur décision médicale. Il s'agissait de sa 13e hospitalisation en 10 ans.
7h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Theresa May de retour à Bruxelles, la Première ministre britannique espère toujours arracher à l'Union européenne des concessions sur le Brexit.
Pour sortir de l'impasse et conserver le fragile soutien des députés britanniques à Londres, Theresa May pourrait notamment proposer un système de contrôle informatique pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes après le Brexit. Mais il est peu probable que sa stratégie soit payante. Les responsables européens montrent désormais clairement qu'ils sont à bout de patience, tout comme le Premier ministre irlandais qui était hier à Bruxelles. La correspondance d'Angélique Bouin.
Et revoilà le poulet aux hormones ou lavé à la Javel. La menace avait déjà été brandie lors des douloureuses négociations qui ont accouché du fameux backstop. Le Premier ministre irlandais l'a redit hier. Si nous voulons préserver notre marché commun des produits que pourraient importer les Britanniques, il faut rester ferme. Ce filet de sécurité ne sera donc pas renégocié. Theresa May est attendue avec des suggestions réalistes pour sortir de l'impasse, ont dit les dirigeants européens. La Première ministre britannique a tour à tour parié sur leur division, sur le sujet raté, sur leur peur d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni, économiquement risquée, encore ratée. Les ambassades ici s'y préparent activement. Le message est clair, on ne le souhaite pas, mais on sera prêt. La Commission et le Conseil européen ont-ils alors un atout dans leur manche? Hier, leurs présidents ont répété qu'ils croyaient toujours à une solution commune. Peut-être donc, mais rien ne filtre. Le bras de fer politique se poursuit. À Theresa May d'abattre ses cartes, dit-on ici, sans cacher un certain agacement. Tandis que Donald Tusk crée la polémique hier en vouant à l'enfer ceux qui ont fait campagne pour le Brexit, Jean-Claude Juncker disait non sans humour n'avoir vu l'enfer qu'ici, à Bruxelles.
Et l'Europe donne également du fil à retordre à la France et à l'Allemagne. Alstom et Siemens ne fusionneront pas. Ainsi en a décidé la Commission européenne, qui estime que le groupe ferroviaire issu de cette fusion aurait été en position de quasi-monopole en Europe. Un veto qui agace particulièrement le gouvernement français. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a dénoncé hier une erreur économique qui va servir les intérêts de la Chine. C'est le groupe China Railway Rolling Corporation, la CRRC, qui est leader mondial du rail. Ironie de l'histoire, ce géant chinois a été conçu grâce au transfert de technologies d'Alstom et de Siemens dans les années 90. Mais quelle est la réalité de ce danger chinois face aux Européens Alstom et Siemens? Élément de réponse avec notre correspondante à Pékin, Dominique André.
La CRRC est un géant du rail né en 2014 pour faire face à un premier défi, équiper la Chine. La deuxième puissance mondiale a développé ces dernières années le plus grand réseau ferroviaire intérieur. La dernière ligne super médiatisée par le gouvernement chinois, c'est Pékin-Hong Kong. La CRRC construira en 2019 en Chine l'équivalent de l'ensemble du réseau ferroviaire français. Mais le groupe est endetté, confie un expert. Construire des lignes ne suffit pas, il faut qu'elles soient rentables. Le mastodonte chinois est cependant un objet de fierté du régime et un outil de sa diplomatie économique. Lors de la première foire internationale sur l'importation à Shanghai l'an dernier, Xi Jinping est resté longuement sur le stand, ce qui n'a échappé à personne. Faut-il en avoir peur sur le plan international? La CRRC a fait une arrivée fracassante sur la scène mondiale en vendant à des prix imbattables des locomotives, des trains ou des métros en Angola, au Brésil, au Chili, en Inde, où il a installé une usine pour être au plus près du vaste marché indien. Le groupe chinois a remporté aussi des contrats dans de grandes villes comme Boston, Buenos Aires, Le Caire, Istanbul, mais il n'a pas pu acheter le constructeur tchèque Skoda, ratant ainsi son ancrage dans la vieille Europe. C'est peut-être là les limites, les Européens résistent et il n'y a pas eu encore de méga contrats internationaux. Pour cette grande société d'État, l'essentiel du marché est toujours en Chine.
Dominique André à Pékin pour France Culture. Des avions de combat français ont frappé dans le nord-est du Tchad une colonne composée d'une cinquantaine de pick-up lourdement armés. Des pick-up venus de Libye, selon N'Djamena, ces rebelles menacent menacé de déstabiliser le Tchad. Une vingtaine de véhicules ont été mis hors de combat. Paris appelle les ressortissants français à ne pas se rendre dans cette zone donc du nord-est du Tchad. La lutte contre Daesh au cœur d'un sommet hier à Washington. Les ministres des Affaires étrangères des 79 pays qui composent la coalition internationale contre le groupe État islamique se sont donc retrouvés dans la capitale fédérale américaine quelques semaines seulement après l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Le président des États-Unis a tenté de rassurer ses alliés en leur expliquant que son pays resterait malgré tout engagé dans la lutte contre les djihadistes. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Les grandes nations ne se combattent pas dans des guerres sans fin. Donald Trump avait prévenu avant-hier dans son discours sur l'état de l'Union, annonçant également le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, un pays où veut peser à l'avenir la Russie de Vladimir Poutine, qui accueille cette semaine des talibans à Moscou, ainsi que des représentants de l'opposition afghane. Les précisions de notre correspondant en Russie, Claude Bruyot.
La délégation d'opposants au régime de Kaboul, au sein de laquelle figure tout de même un certain Hamid Karzai, l'ancien président de l'Afghanistan pendant 13 ans, a pu exposer par exemple sa vision de la femme dans la société afghane, sans doute différente de celle des talibans de l'autre côté de la table. La Russie joue donc la carte de l'opposition pour parvenir à attirer les talibans dans les négociations. L'ennui, c'est que personne ne sait, ni à Moscou ni ailleurs, si les opposants d'aujourd'hui, qui se disent satisfaits de ces premiers échanges, seront les décideurs de demain. Pour cela, il faudra attendre encore 6 mois et le résultat de l'élection présidentielle en Afghanistan. Mais le Kremlin voit plus loin. Il s'agit pour la Russie d'éviter une implantation terroriste forte en Afghanistan aux portes de sa zone d'influence, laquelle commence par exemple dès le Tadjikistan voisin. Les marches de l'ancien empire soviétique sont directement menacées par cette réalité et la Russie elle-même l'est également sur son sol par le biais de ses mouvements migratoires. Moscou pour cela joue à fond la carte diplomatique, en espérant que le départ des soldats américains d'Afghanistan n'affaiblira pas sur place la lutte contre le terrorisme. L'objectif à terme du Kremlin consiste donc à éloigner le plus possible les talibans de la mouvance terroriste représentée notamment par l'État islamique, en essayant de les impliquer davantage dans la gestion politique de l'Afghanistan. Et il est probable que d'autres réunions comme celle de cette semaine se tiendront encore d'ici la présidentielle afghane pour tenter d'accentuer le processus.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. Le temps de ce jeudi 7 février, pluvieux du sud-ouest au nord-est, un temps un peu plus clément près de la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre moins 1 et 4 degrés à l'est de l'Hexagone, 5 à 9 à l'ouest, ainsi que près de la Grande Bleue, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. 7h13 sur France Culture. Dans quelques instants, Alstom Siemens. Pourquoi l'Europe empêche-t-elle la fusion ?